Nous lirons plusieurs autres textes ce matin, mais je vous invite à faire cette lecture d'introduction, le psaume 23. Psaume 23. Il s'agit d'un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est un psaume dans lequel David, le roi David, nous parle de la sécurité, de l'appui qu'il a trouvé en Dieu. Il emploie ici... Le roi David emploie cette image du berger qui conduit ses brebis, qui conduit sa brebis, nous y reviendrons dans quelques moments, et de la sécurité qu'éprouve la brebis lorsqu'elle se trouve sous la conduite et sous les soins prévoyants du berger. David savait de quoi il parlait, lui-même avait été berger pendant de nombreuses années et il savait défendre le troupeau contre les animaux sauvages, accomplissant parfois dans le secret, avant que Dieu ne l'appelle à cette vocation qu'il accomplira auprès du peuple d'Israël, accomplissant son service dans le secret. Alors ce qui est frappant, bien sûr, c'est de découvrir que dans l'Écriture, souvent, le berger représente la tâche du berger, représente une tâche honorable, quelque chose de noble, quelque chose d'utile. Les hommes que Dieu a choisis pour les établir en tant que témoins ont souvent été des bergers. On pense par exemple à Abel, ce premier témoin, ce premier martyr de la cause de Dieu, il était berger. On pense aussi à Moïse, cet homme que Dieu s'était choisi et qui après cet acte impétueux et sa fuite du pays d'Égypte, a pendant 40 années au pays de Madian rempli les offices d'un berger avant que Dieu ne lui apparaisse dans le buisson ardent. Puis David était un homme selon le cœur de Dieu, et lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a permis qu'il soit oint, eh bien, David, nous l'avons dit, était berger. Dans l'Ancien Testament, il est marquant de voir que Dieu se révèle comme le berger d'Israël. Bien des textes nous présentent Dieu qui avait choisi cette nation pour la conduire, pour la paître, en tant que son berger. Alors, tel n'est pas mon propos ce matin. Bien sûr, au travers d'Israël, Dieu nous parle, dans l'Ancien Testament, de son dessein pour l'Église. Vous savez que, bien sûr, il n'est pas question de nier que Dieu a l'œil sur le peuple d'Israël aujourd'hui encore, que l'histoire d'Israël, sa position géographique même, remplit une importance particulière dans le dessein de Dieu. Mais, voyez, l'accomplissement des promesses de Dieu, elle est pour l'Église. Hein, il n'y a plus, écrit l'apôtre Paul, ni juif ni grec en Jésus-Christ. À cet égard, Paul dira, les circoncis, c'est nous, voyez, hein, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Et nous savons que l'espérance, voyez, qui nous attend, l'espérance qui attend les rachetés, ceux qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, bien c'est d'être pour toujours dans cette nouvelle Jérusalem, cette cité de Dieu qui descend du ciel. Voilà pourquoi nous affirmons aujourd'hui qu'en Christ, dans ce sens, il n'y a plus ni juif ni grec, pas de privilège plus grand pour une nation que pour une autre, mais tous sont un en Jésus-Christ. Et même, c'est en lui, en Christ, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, les ordonnances de l'Ancien Testament étaient l'image et l'ombre des choses à venir. Et nous les vivons pleinement, nous vivons leur réalité en Christ, dans l'Église, béni soit son nom. Alors, dans le livre de la Genèse. Je vous propose de découvrir quelques textes. Le livre de la Genèse, au chapitre 49. Livre de la Genèse, chapitre 49, au verset 24. Voilà, il s'agit de la bénédiction que Jacob va prononcer sur les enfants d'Israël. Il est question ici de Joseph. Genèse, chapitre 49, verset 24. On peut même lire le verset 23. Une question de l'opposition que Joseph a rencontrée. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Donc derrière cette bénédiction prononcée sur Joseph, bien entendu, nous comprenons que Dieu a dans son dessein la venue de Jésus-Christ et de Christ. Il est donc affirmé qu'il est le berger, le rocher d'Israël. Le berger, il y a combien plus forte raison dans l'Église, le fait d'être conduit par Christ donne à son peuple une occasion de s'appuyer sur lui. Un rocher, c'est quelque chose d'immuable qui résiste aux tempêtes et, béni soit Dieu, il peut se produire toutes sortes de tempêtes et dans nos vies, dans la vie même de l'Église, il peut s'en produire. Mais nous avons en Christ un rocher immuable sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer. Un deuxième texte se trouve dans le livre des Nombres, le livre des Nombres, au chapitre 27. Livre des Nombres, au chapitre 27, verset 15. Livre des Nombres, au chapitre 27, verset 15. Nombres, au chapitre 27, verset 15. Nous est dit que Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Voilà, nous arrivons ici dans un texte où Moïse vient d'apprendre qu'il ne pénétrera pas lui-même dans le pays promis. Il pourra le regarder, mais pas y entrer. Dieu a été sévère avec Moïse, car c'est un homme à qui beaucoup avait été donné. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que Moïse ne soit pas dans la gloire de Dieu. Souvenons-nous que Moïse apparaîtra sur le mont de la Transfiguration avec Élie, aux disciples assemblés avec le Seigneur. Mais il n'entrera pas dans le pays de Canaan. Or, Moïse, à ce moment-là, pense non pas avant tout à lui, mais au peuple. Et il va parler à Dieu en disant, voilà, il ne faut pas que ce peuple soit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Dieu, bien sûr, va agréer cette demande de Moïse. Il va désigner Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et va le donner à Israël comme un conducteur. C'est lui qui introduira le peuple dans la terre de Canaan. Pour nous, nous avons en Jésus-Christ plus que Josué. C'est ce que nous montre l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas ? Il est plus grand que Josué. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est celui qui nous fait entrer comme Josué a fait entrer Israël dans la terre promise. Christ est celui qui fait entrer l'Église dans son héritage. Béni soit ton nom. Un héritage délicieux nous est échu. Il y a une belle possession nous est accordée. Il y a tout un héritage qui est donné à l'Église. Voilà, la paix, la grâce, le secours de Dieu. Un héritage au niveau des dons spirituels. Un héritage au niveau de toutes ces richesses que nous avons en Christ. C'est lui qui nous y introduit. Il est en ceci aussi notre berger. Puis un troisième texte se trouve dans le livre des psaumes. On va lire plusieurs textes dans les psaumes. Psaume 28, verset 8. Psaume 28, le verset 8. Psaume 28, verset 8. « Voilà, on peut même lire le verset 7. C'est David qui prie en ces termes. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Voilà, là encore, David a conscience du fait que les victoires qu'il lui a été donné de remporter contre ses nombreux adversaires, n'oublions jamais quel a été le chemin de David à partir du moment où il a été oint pour devenir roi d'Israël, jusqu'au moment où, en effet, il régnera. Nous aussi sommes appelés à régner un jour avec Christ, mais le chemin est long et il y aura, comme pour David, des difficultés, des moments où nous serons en but, voyez, même à la force de nos adversaires, bien comme David, apprenons à dire que l'Éternel est la force de son peuple, qu'il est notre berger et notre soutien pour toujours. Non pas à cause de ce que nous valons, non pas à cause de ce que nous sommes, de ce que nous pourrions faire valoir de nos mérites ou de nos œuvres devant Dieu, non, non. Voyez, David l'avait compris lorsque il nous dit que le Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est en sa grâce que nous nous confions. Un autre texte se trouve dans le psaume 95. Psaume 95, verset 6. Psaume 95, verset 6. Où il est écrit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, qu'ils ne connaissent pas mes voies. Alors, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Voilà, nous aussi, nous sommes le peuple, nous avant tout, Église de Christ, nous sommes le peuple dont Dieu, dont Christ, est le berger, le troupeau que sa main conduit. Et c'est important, vous voyez, dans ce texte, nous le découvrons pour bénéficier de cette conduite, d'entendre sa voix, de l'écouter. Vous savez que le Seigneur dira, je connais mes brebis, elles me connaissent, je les appelle par leur nom et elles me suivent. Et la sécurité du troupeau, vous voyez, réside toujours dans le fait d'écouter la voix du berger. Alors c'est vrai que ce texte, d'une certaine manière, est placé devant nos yeux comme une mise en garde. Pour ne l'avoir pas fait, le peuple d'Israël, toute une génération, n'a pas prêté attention à la voix du berger et se sont perdus. Quoique sortis de l'Égypte, quoique conduits pour un temps dans le désert, ils ont péri pour ne pas avoir écouté la voix du berger. Nous l'avons dit, plus que Moïse, plus que Josué, dans la personne de Jésus-Christ, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux citera lui-même ce psaume, cette parole, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voyez, l'Éternel est notre berger. Nous sommes le peuple que sa main conduit. Dieu parle à l'Église, par toutes sortes de moyens. Voyez, il parle par sa providence, il parle par ce qu'on entend même à l'extérieur. Il parle au milieu d'elle, par sa parole, par les enseignants, par les hommes qu'il a établis sur l'Église. Il parle par quelques dons spirituels. Est-ce que tu entends sa voix? Te donne-t-il une direction? Bien, entends sa voix. Voyez, s'il y avait besoin ce matin, fais plier ta volonté aux paroles de sa bouche. Tu t'en trouveras bien. Le berger te conduit pour ton bien. Et puis, encore un texte dans les psaumes. Le psaume 80, voyez cette abondance de textes qui nous parlent d'Israël comme au bénéfice des soins de Dieu, le berger. Psaume 80, verset 1er. psaume 80, verset 1er. Voilà, ce n'est pas un psaume de David, c'est un psaume d'Asaph. Psaume 80, au chef des chantres, sur les lys lyriques d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Un peu plus loin, le verset 18, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voilà, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, prête l'oreille, berger d'Israël. Asaph, qui est un homme dont Dieu s'est servi pour rédiger plusieurs psaumes, ici exprime son désarroi devant, semblerait-il, une défaite militaire d'Israël face à ses adversaires. Et voilà qu'à travers cette défaite, bien sûr, toutes sortes d'interrogations, de questions naissent dans le cœur de cet homme de Dieu, et il a ce réflexe de se tourner vers Dieu et de l'invoquer comme le berger. Fais briller ta face, relève-nous, et nous serons sauvés. Il est des temps où l'Église de Christ elle-même peut passer par des temps de défaite apparente, par des temps de déclin, par des temps de relâchement spirituel, voyez. Et même dans ces moments-là, bien le berger est celui vers lequel nous devons nous tourner pour être secourus, pour qu'il relève son peuple, pour qu'il fasse briller sa face et relève ceux qui s'attendent à lui, qui invoquent son nom, peut-être même qui reconnaissent qu'ils ont besoin eux-mêmes d'être revigorés, revivifiés. Vous voyez, je me souviens de cette église où, pendant des mois, vous voyez, comme Dieu parlait de manière manifeste et m'y appelait cette église à reprendre le chemin de la piété, reprendre le chemin de la recherche de la face de Dieu, de s'humilier sur son état pour recevoir à nouveau la bénédiction de Dieu. Et au sein de cette église, la plusieurs ont pris à cœur, voyez, l'avertissement de Dieu, la parole que Dieu leur adressait, c'était Dieu qui parlait. Et ici et là, on entendait, voyez, que voilà, quelque chose se produisait, Dieu a béni. Voilà, c'était tel frère qui était baptisé du Saint-Esprit chez lui. C'était tel jeune homme qui recevait les dons spirituels. C'était tel frère qui, là, dans le secret de sa chambre, pleurait, s'humiliait sur une situation et voyait la main de Dieu intervenir, le relever. Je me souviens de ce couple, ça faisait des années qu'on ne les voyait plus. Et voilà qu'ils se sont remis à venir. Et Dieu les a bénis. Il n'avait plus de travail, ce frère. Après ces années d'éloignement, et Dieu lui a ouvert des portes dans une réunion de jeûne. Il était là, il était à genoux, et il y a eu un don spirituel. Dieu a vu ton mal, et Dieu a vu ta situation. Il va ouvrir une porte, et Dieu te guérit. Le lendemain, il recevait un coup de téléphone, et il trouvait du travail, et son dos était complètement débloqué. Voyez, ô Dieu, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Hein, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Voilà, le fait d'avoir ce berger nous donne d'avoir part à sa puissance, sa sollicitude, sa bienveillance, ses soins. Quelques pensées assez rapidement sur le fait que David ne parle pas dans le psaume 23 simplement de Dieu comme du berger d'Israël. C'était quelque chose qui alors était admis et bien connu. Mais David avait fait l'expérience personnellement, voyez, du fait que Dieu était devenu pas seulement le berger de son peuple, mais son berger. Voilà. Et nous aussi, nous souvenons des paroles de Jésus qui se révèle comme le bon berger. David dira ainsi, « Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il est question du véritable contentement de l'âme et de la paix que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ. Il restaure mon âme. Vous voyez, c'est important ça. Hein, on a souvent besoin que Dieu nous restaure. Et Voyez, si notre âme avait besoin d'être restaurée ce matin, je vous assure, auprès de Jésus-Christ, il y a cette restauration. Si quelqu'un s'était éloigné, voyez, le berger n'est pas contre la brebis, il n'est pas contre le troupeau, il est pour eux. Il faut revenir à Jésus-Christ. Il est le pasteur et le gardien de nos âmes. Voilà, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà, Christ nous a donné une espérance, elle pénètre au-delà du voile, au-delà du tombeau, là où Christ est entré pour nous comme précurseur. Cette espérance, est-il écrit, elle est sûre et solide. Nous la possédons comme une ancre de l'âme. Et l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi toutes sortes de situations, de difficultés, dans lesquelles la présence du berger nous rassure. Ta houlette, ton bâton, ce sont les symboles de son autorité, ce sont les emblèmes de son autorité. Voilà, il est le souverain, il est le Seigneur. Il est question de dresser devant nous une table en face de nos adversaires, une position de contentement et de triomphe, même dans l'adversité. Loin d'huile ma tête. Voilà, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, pensons à ce don glorieux du Saint-Esprit, reçu, répandu par le Seigneur, ressuscité. Et ma coupe déborde. Et puis cette espérance, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et en attendant, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Quelques pensées pour finir. Israël, nous l'avons dit, nous a laissé bien souvent comme une image, comme une préfiguration de ce que Dieu veut faire pour l'Église. L'amour de Dieu n'est pas limité à une nation. Mais dès les jours d'Abraham, dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu qu'en Christ, il bénirait toutes les familles de la terre. Et par Jésus-Christ, le Seigneur veut bénir encore tous ces hommes et ces femmes du dehors, membres de famille, qui aujourd'hui sont encore incrédules, des collègues de travail qui sont intelligents, mais voyez, on fait l'expérience que leur intelligence est comme aveuglée, obscurcie, c'est écrit. C'est le plan de Dieu de les sauver. Pourquoi pas par nous, par une parole laissée, à travers d'une situation difficile, à travers d'une situation qu'un moment favorable suscite, un moment que nous saisissons, une parole qui rend témoignage non pas à nous, mais au Seigneur. Vous voyez, qui peut dire ce que ça peut produire, ça? Le Saint-Esprit applique la vérité, il nous conduit dans toute la vérité. Je me souviens de ce moment où le Seigneur, ému de compassion, voit la foule languissante et, voyez, son berger. Et le maître dira simplement à ses disciples, priez le maître de la moisson pour qu'il chasse des ouvriers dans sa moisson. Languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mais, voyez, prions pour que, effectivement, Dieu suscite des hommes auxquels il confie le ministère de la parole. Nous en avons entendu parler, voici quelques semaines. Mais prions aussi et avant tout pour que, à travers eux et à travers nous, ceux qui sont sans espérance entendent la voix du bon berger. La même voix que celle que nous avons entendue. Voyez, c'est la lumière qui, étant dans le monde, éclaire tout homme. Et puis, enfin, sur un plan personnel, voyez, c'est pas seulement les foules, mais on se souvient de cette parabole du bon berger. Et cette parabole du berger qui, ayant 100 brebis, en perd une. On l'a vécu pour nous. Le jour où Christ nous a trouvés, nous avons pris conscience que nous avions de la valeur pour lui, que malgré ce que nous avions été, malgré ce que nous étions, le Seigneur entrait dans notre vie, il s'est révélé à nous. Nous l'avons connu comme le bon berger, même si peut-être ce ne sont pas les mots qui sont venus à notre cœur ce jour-là. Bien en particulier pour ceux qui nous environnent, pour ceux qui nous entourent, pour ceux pour lesquels nous prions. Dieu voudrait se manifester à chacun en particulier. Le salut, rappelons-le, est une question personnelle. Une seule brebis. Le Seigneur se révèle comme le bon berger. Il dira, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette image nous amène à comprendre, bien sûr, qu'il y a dans le cœur du Seigneur un dévouement remarquable pour les siens, pour son Église. Quel dévouement que celui d'un berger qui met sa propre vie en péril pour protéger le troupeau dont il a la charge. Dans le cas du Seigneur, il n'y a pas seulement le dévouement, c'était une nécessité. Une nécessité parce que, bien à cause de la réalité du péché, il était en nous, nous étions coupables et nous étions, c'est Ésaïe qui le dit, comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Pour certains, c'était manifeste, notre vie en témoignait de manière très claire. Pour d'autres, c'était moins flagrant. On peut avoir grandi dans l'Église, dans un foyer chrétien, ne jamais avoir fait les 400 coups, pourtant être perdu. Perdu à l'extérieur ou même perdu dans la maison. Si c'était le cas de quelqu'un ce matin, nous aimerions lui dire « Le bon berger est mort pour toi aussi. » L'Éternel est-il ton berger? N'aimerais-tu pas ce matin venir au bon berger? Bien souvenez-vous de cette parole. Il connaît ses brebis, les appelle par leur nom. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Est-ce que tu entends ce matin la voix du bon berger? Peut-être que tu l'as entendu des dizaines de fois, mais c'est le jour pour toi d'ouvrir ton cœur pour le suivre, pour t'engager à sa suite, pour entrer dans la vie éternelle. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Et tu pourras dire toi aussi, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu pourras dire, il restaure mon âme. Quand toi aussi tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, car il faudra tous y passer. Toi aussi tu diras, je ne crains aucun mal, parce que il est avec moi. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit. Voyez, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question du grand berger, qui a été ressuscité des morts. Il est vivant, nous pouvons venir à lui. Il est celui qui nous parle du haut des cieux. Et puis, dans cette première épître de Pierre, de Jésus comme le pasteur et le gardien de nos âmes. Lorsque nous lisons le psaume 23, il ne s'agit pas de paroles sentimentales, vous voyez, une fable ou une description un petit peu rêveuse. Non, non, l'homme qui les a écrites, David, qui a été inspiré, était le roi d'Israël. D'ailleurs, il est assez humble pour reconnaître que lui-même a besoin d'un berger. C'est un homme sensé qui a connu bien des batailles, mais il a besoin d'un appui. Il est conscient qu'il ne serait rien si Dieu n'était pas son berger. Il en est de même pour nous. Dieu nous donne la sagesse, la foi pour entendre sa voix. Que sa bénédiction soit sur vous, que le Seigneur nous bénisse. Je vous propose de nous recueillir quelques instants et de prier ensemble le Seigneur.